Bonjour. Bienvenue à la table ronde consacrée au cours sous toutes ses formes, c'est-à-dire textuel, cinématographique. Pour parler du cours et histoire de Ferlon, nous avons le plaisir d'avoir Sylvie Lainée, autrice de nouvelles largement récompensées, Grand Prix de l'imaginaire pour Les yeux d'Elsa en 2007, puis Opéra de Chaya, pareil, en 2015. 4 prix Rossini-Aîné, prix Bob Moran, etc. Les nouvelles ont été publiées en revue, mais aussi, et nous, on reviendra sur ce point, en anthologie. Jean-Claude Duniac, parolier, chroniqueur de SF, anthologiste, ayant désiré être une rockstar quand il était jeune, mais il l'est toujours, et l'ayant été, et surtout auteur de plus de 100 nouvelles de SF, et puis vous vous intéressez entre autres domaines aux livres numériques, et son impact sur l'édition. Marc Caro, habitué du festival, artiste aux multiples talents, auteur de BD, cinéaste ayant commencé dans l'animation, on va parler du manège par exemple, co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet, co-réalisateur de deux longs justement avec Jean-Pierre Jeunet, Délicatessen et la Cité des Enfants Perdus, et Dante 01 en solitaire, réalisateur de nombreux courts-métrages, souvent travaillant en numérique avec des techniques expérimentales ou inédites, musicien avec le groupe bruitiste Parasite, scénographe, directeur artistique, etc. Et puis Dimitri Régnier, après avoir été acteur, metteur en scène pendant 20 ans, créateur et directeur du festival 3 jours et plus, théâtre Antoine Vitesse, si ma mémoire est bonne, vous créez les Bouconautes, maison d'édition consacrée à la nouvelle, mais sur le web. Alors, pour commencer cette table ronde, Marc Caro, vous avez réalisé, co-réalisé deux longs, donc Délicatessen, la Cité des Enfants et Dante 01. Mais vous étiez d'abord fait connaître par les cours. Il y a eu, en fait, c'est le passage généralement, enfin classique pour la réalisation. On commence par le cours et on arrive au long. Mais vous avez continué de travailler le format court après, et même pendant, c'est-à-dire que, par exemple, Chaos Kid, qui date de 1993, a été réalisé entre les deux premiers longs-métrages co-réalisés avec Jean-Pierre Jeunet. Alors, la question pourrait être un peu évidente, mais elle n'est peut-être pas du fait des techniques numériques utilisées, qui sont souvent assez lourdes. Enfin bon, on parlait, par exemple, de l'utilisation du Harry, le Harry Penbox de chez Cantel, au début des années 90, qui était quand même une technique de production et de post-production assez lourde. Quelle différence du fait de de l'industrie mise en route, quelle différence voyez-vous entre les deux formats, le court et le long? Et surtout parce que il y a notamment dans le court chez vous un désir de développer un univers graphique très personnel. Ce qui rentre évidemment en ligne de compte.
Alors, je pense pas que c'est un rapport. Je pense que les univers graphiques et visuels sont développés aussi bien dans le long que dans le court. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste un problème de format. Et je pense que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le format court, c'est que c'est un espace d'expérimentation. Et c'est un espace aussi de pouvoir concentrer, synthétiser des idées. Alors que dans le long, on va pouvoir développer, on va pouvoir s'attacher à des parcours psychologiques et des choses comme ça dans le fil narratif de l'histoire. Je trouve que dans le court-métrage, par exemple, on va développer une intuition, une idée qu'on a, et on va se concentrer dessus dans un format court. C'est cet espace d'expérimentation qui m'a toujours intéressé. Donc après, le fait de faire un long ou un court, c'est toujours long. C'est vrai que faire un court-métrage, par exemple, vous parliez de Chaos Kid, j'ai passé un an et demi pour le faire. À la fin, c'est un truc qui dure 3 minutes. Donc, le rapport travail et durée est quand même très, très aléatoire, quoi.
Ceci dit, ça dépend aussi des techniques, parce que bon, là, il s'agit d'animation numérique avec beaucoup de post-production. En prise de vue réelle pure, évidemment, c'est tout à fait différent.
Oui, mais bon, moi, comme je fais des films de prise de vue réelle avec beaucoup de post-prod dessus, c'est quand même à chaque fois des travaux assez longs. Et l'autre chose que je trouve qui est dans le, comment ça s'appelle, qui est une des vraies possibilités du court-métrage, c'est que moi j'ai toujours été fasciné par, je trouve que ça s'est un peu perdu d'ailleurs, cet art, c'était le dessin d'humour, où à travers un seul dessin, on racontait toute une histoire. Les bosques, les chavals, les topors, les sampés, etc. Et je trouve que arriver à rendre une histoire dans un format très très court comme ça est quelque chose, moi, qui me, une expérimentation en tout cas narrative qui m'intéresse beaucoup, quoi.
Sylvie, justement, puisqu'on parle de resserrer, pourquoi avoir n'écrit que des nouvelles, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que le format apporte à l'écriture et en quoi il vous parle ?
La nouvelle, alors d'abord la nouvelle, il y a quand même pas mal de formats possibles, hein, déjà, entre la short qui fait 10 000 signes et puis la novella qui commence à s'approcher du roman court, on a des espaces d'expression qui sont assez différents. Mais en écoutant Marc Caro, je me disais que déjà l'idée de faire de l'expérimentation, c'est bien la même. Il y a des choses qu'on peut faire de manière cohérente en allant jusqu'au bout de l'expérience sur une durée courte. Si on étalait ça sur un roman, je pense que nos lecteurs auraient peut-être des indigestions, des nausées. Y a des effets qui ne supportent pas la durée, qui s'y prêtent mal. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup aux personnages dans ce que j'écris. Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas... Dans une nouvelle, on met en scène quelque chose qui ne s'étale pas tellement dans le temps. On ne raconte pas plusieurs générations, des millénaires à la surface d'une planète, ou on le fait difficilement. Je sens déjà que Jean-Claude n'est pas d'accord. Mais en général, on est sur des tranches de temps assez brèves, ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps de voir les personnages se transformer, avoir une évolution psychologique très significative. Mais on peut les mettre dans des situations où on a leur ressenti, leur réaction viscérale et immédiate. Comment ils vivent le truc avec leur trip dans le moment. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, plus à la limite que de voir comment ils vont analyser les choses à froid, se les raconter par la suite. J'aime bien les attraper à chaud et voir ce qu'ils vivent à ce moment-là.
Et donc, concernant justement alors, l'arc narratif des personnages, est-ce qu'il y a... Il y a plus de difficultés sur un format court pour avoir une évolution de personnage.
De toute façon, le principe d'une nouvelle, c'est que c'est un one shot, c'est un récit en général qui est tout seul. Et on n'a pas des contraintes qu'on pourrait avoir dans d'autres formats, comme je pensais à certains types de séries dont l'idée générale est qu'on doit se retrouver à peu près dans le même état à la fin de l'épisode que celui qu'on avait au début. Nous, on peut se permettre de changer les règles de l'univers. On peut tout basculer dans une nouvelle. Donc, il est bien évident que les personnages y basculent aussi. On peut avoir quelqu'un qui a, peut-être pas qui a profondément changé, mais qui n'a plus du tout le même rapport avec le monde à la fin de l'histoire. Et ça peut se passer très vite. Il ne comprend pas de la même façon la situation qu'il expérimente. Donc ça, c'est un vrai bouleversement qui m'intéresse.
Concernant les difficultés spécifiques, vous deux, Jean-Claude et Sylvie, les difficultés spécifiques de l'écriture de la nouvelle.
Il y a des difficultés effectivement spécifiques, au sens où, comme c'est court, on a moins de place pour dire ce qu'on a à dire. Or, le problème, c'est que dans l'imaginaire, on a beaucoup d'informations à faire passer. Donc, écrire des nouvelles, du moins des nouvelles d'imaginaire, c'est réfléchir à ce dont on ne peut absolument pas se passer et ce que l'on peut espérer que le lecteur va inférer lui-même ou découvrir lui-même ou déduire lui-même ou même fournir lui-même à partir de ses propres expérimentations. Et il y a des choses, je dirais, dont on ne peut pas faire l'économie. C'est par exemple, si on veut, comme dit Sylvie, qu'on ressente ce que ressent le personnage ou ce que ressent la situation dans laquelle on se trouve. Si on veut que la sensorialité du texte passe, il faut la mettre. Il n'y a pas le choix. Par contre, un certain nombre de choses peuvent être déduites de textes similaires. L'erreur qu'on fait souvent en science-fiction, d'ailleurs, c'est de partir du principe que tout le monde sait ce que c'est qu'un vaisseau spatial, tout le monde sait ce que c'est qu'un ensemble, tout le monde sait. Donc on ne le décrit pas, on dit juste le nom. Mais à un moment donné, on se coupe d'un certain public qui, lui, ne sait pas ce que c'est. Et la difficulté, donc, c'est la gestion de l'information. Et pour moi, c'est une gestion en plusieurs couches, c'est-à-dire ce que je dis, ce qui est déduit de ce que je dis, ce qui est inféré de ce que je dis et ce que le lecteur apporte. Et à partir de là, il y a aussi plein d'autres couches qui se créent. Ça, c'est difficile. Ça veut dire traiter le même problème par plusieurs angles différents, réfléchir au sens de chaque mot, au fait que tel mot a tel poids et qu'il évoque telle autre chose, le pouvoir d'évocation est fondamental, et donc arriver à rentrer de l'information au maximum. Une bonne nouvelle, elle met plus de temps à être racontée qu'à être lue. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Vous avez un texte de 10 pages, vous vous dites c'est extraordinaire, vous commencez à le raconter en disant j'ai lu ce texte fabuleux, vous allez y passer un quart d'heure. Alors qu'en le lire, vous allez mettre 3-4 minutes. Quoi. Donc vous avez beaucoup plus géré d'informations qu'il n'y en a dans le texte. Et ça, c'est une nouvelle réussite.
Sylvie, sur le même sujet.
Non, je passe mon tour pour l'instant.
D'accord. Est-ce que l'écriture de cours, par contre, de nouvelles, de format plus donc court, même si effectivement les durées sont assez variables, est un encouragement à passer à du roman ou alors pas du tout?
Alors ça m'inspire. Là, je veux bien répondre cette fois-ci. Parce que ça doit faire ça doit faire 30 ans qu'on me pose cette question dans à peu près toutes les tables rondes auxquelles je participe.
Elle est provoque.
J'ai eu le temps de me la poser un certain nombre de fois. Moi, j'ai énormément de plaisir à lire des nouvelles. Donc, d'abord, pour moi, l'essence de la science-fiction s'exprime tellement bien via les nouvelles que ça ne veut pas dire que je ne trouve pas de charme et de plaisir dans des romans. Il y en a que j'adore. J'arrive même, quelquefois, c'est un peu plus rare, à prendre plaisir à lire de longs cycles en 5 ou 10 volumes. Non, 10, je crois que je n'ai jamais réussi. Mais la nouvelle a une puissance extraordinaire. C'est vrai, ce que disait Jean-Claude, je le ressens aussi. Dans une nouvelle, par l'investissement que le lecteur est obligé d'y faire, on rajoute des dimensions qui sont... Alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Claude, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'impact que les mots ont sur le lecteur. On ne connaît pas son bagage culturel et surtout, on ne connaît pas... Moi, je parle toujours de rapport au monde. On ne sait pas comment les gens vont raccrocher à leur propre expérience, à leur propre... aux choix qu'ils ont dû faire, aux émotions qu'ils ont ressenties. C'est totalement hors de notre contrôle et on ne peut même pas l'imaginer. Et il faut renoncer à l'imaginer. Simplement, il ne faut pas tricher quand on écrit. Moi, ma manière de ne pas tricher, et je ne sais pas si je pourrais le faire dans un format plus long, c'est d'écrire en ayant un champ de conscience qui est vraiment restreint au personnage, au narrateur, en fait, à celui qui s'exprime, de manière à n'avoir à faire passer que ce qu'il voit autour de lui et surtout ce que ça lui inspire. Il est dans un vaisseau spatial. Si pour lui, il est banal d'être dans un vaisseau spatial, ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est éventuellement d'évoquer est-ce qu'il s'y sent bien, comment il est dans cet environnement, est-ce qu'il aurait envie d'être ailleurs ou pas. Mais au-delà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de travailler sur... faire en sorte que tous les lecteurs partagent le même vaisseau spatial que celui que j'ai moi dans la tête. Chacun peut inventer le sien.
Ça va être le fil conducteur, ça, plus court les réponses.
Ça allait très bien. Dimitri Régnier, justement, parlez-nous alors de cette offre web que vous proposez. Alors d'abord, comment l'idée vous est-elle venue d'utiliser le support web?
Une frustration de lecteur, en fait. L'origine, c'était une frustration de lecteur, parce que moi aussi, je suis un grand amateur de nouvelles.
Il faut peut-être présenter
Alors, rapidement, d'abord. Donc, j'ai créé une maison d'édition qui fonctionne sur le web, qui s'appelle Les Bouconautes, et qui propose aux lecteurs d'entrer dans des histoires par un biais amusant qui est le biais du temps, c'est-à-dire celui que vous avez envie de consacrer à votre lecture. Donc vous vous inscrivez sur notre plateforme, vous cliquez sur 5, 10 ou 15 minutes parce que vous savez que vous avez 5, 10 ou 15 minutes, un temps de transport, je ne sais pas quoi. Et on vous fait une proposition. Après, vous choisissez le style ou le genre, mais la première porte d'entrée, c'est le temps. Ça a été l'idée, elle est venue parce que encore une fois, c'était une vraie frustration de lecteur de ne pas trouver des petites pépites littéraires dans tous les styles et tous les genres avec les formats numériques actuels. Moi, ce que j'avais envie, c'était pas de lire des 300 signes du monde, c'était de lire de la fiction, de lire des histoires écrites par des auteurs. Et donc, je trouvais qu'il y avait une espèce d'adéquation entre le média web, qui est un média un peu de l'immédiateté, justement, et le court. Et donc, c'est comme ça qu'on a évoqué l'idée. Et puis, il y avait aussi un autre versant, c'est que j'en parlais beaucoup avec les auteurs, parce que du coup, du fait qu'on voulait travailler sur du court, l'idée, c'était de dire aux auteurs, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse publier rapidement, sans bitérer le travail d'éditeur, hein, évidemment, mais de publier rapidement et de le rendre le plus rapidement accessible aux lecteurs. C'était vraiment les tout débuts de l'aventure. Ouais.
Et alors, concrètement, techniquement, comment ça se passe? C'est lisible sur quel type de support? C'est code et comment?
Concrètement, c'est très très simple. Il s'agit d'un site internet. C'est-à-dire que on ne révolutionne pas l'internet. On propose simplement un site internet qui est pensé pour la lecture, donc avec tous les aspects techniques qui vont bien, c'est-à-dire le fait que ce soit affichable sur n'importe quel support, ordi, tablette, smartphone, enfin n'importe lequel. Et puis, donc techniquement, ça n'est qu'un site internet. Il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à installer. On se rend sur le site et il a été pensé pour être le plus agréable possible pour le lecteur.
Parfois, les nouvelles sont agrémentées de graphismes. Ouais. Est-ce que c'est géré également par le site ou est-ce que c'est en projet? Concrètement, comment ça se passe?
Pour rendre les choses le plus agréable possible, on a effectivement des couvertures pour un peu faire rentrer le lecteur dans un univers avec une présentation de l'auteur, etc. Et puis après, on accède directement au texte. Donc là aussi... Le graphisme, on y pense pour peut-être une version plus tardive, mais pour l'instant, on en reste. Notre idée, c'était quand même de rester le plus proche possible de l'accès à une vraie histoire le plus rapidement possible. Donc, quelque chose qui ne mette pas 20 ans à se charger, tu vois, enfin, que ce soit extrêmement fluide. Donc, pour l'instant, on ne privilégie pas trop le graphisme. On y reviendra, hein, certainement. Je pense que techniquement ou technologiquement, ça le permettra plus facilement que ça ne l'est maintenant. Mais pour l'instant, on trouve que une affichage d'une jolie page web bien faite, faite pour être agréable à lire, surtout sur des temps très courts, parce que souvent l'argument qu'on nous donne, c'est « Ah bah oui, mais moi je lis pas sur une tablette, je lis pas sur un smartphone ». Alors d'abord, c'est faux. Parce que en réalité, effectivement, il n'est pas question de lire un roman sur ce type de support, mais de lire une nouvelle 5, 6 minutes, 8, 10 minutes, c'est tout à fait possible. On le fait déjà avec nos flux Facebook, nos mails, machin. On y passe un temps fou en fait. En réalité, si tu cumules en une journée tout ce que tu le temps que tu passes à regarder ta tablette ou ton smartphone. Tu dois pouvoir arriver facilement à les cumuler, tu vois, pour lire une belle histoire.
Après, il y a aussi un autre point, c'est la question de l'édition numérique. Généralement, quand on a des ouvrages qui sont imprimés et dont l'éditeur propose une version en numérique, EPUB, PDF, on se retrouve toujours avec quelques querelles concernant les droits d'auteur. Et notamment aussi lié au prix de vente du roman ou de la nouvelle qui semble toujours disproportionné finalement par rapport au coût de fabrication d'un livre papier. Comment ça s'organise pour les bouconautes en termes de relations éditeur-écrivain?
Alors, on est né du web, nous. Donc du coup, on a réfléchi un peu avec ça en tête. L'idée était d'être le plus correct possible, puisque finalement l'auteur est notre fournisseur de contenu. Voilà, que eux sans nous et nous sans eux, nous ne sommes rien. Et donc, d'un point de vue économique, on a trouvé une solution extrêmement simple, c'est-à-dire que on, il y a une belle partie des droits qui sont reversés aux auteurs. Voilà, une très bonne partie même, on va dire. Alors on est presque à, tant pis, on va parler un peu boutique, mais on est à presque 40% du prix public hors taxe reversé à l'auteur. Parce que de toute façon, on avait enlevé tous les problèmes liés à la diffusion, la distribution, la fabrication. On peut aller beaucoup plus vite. Donc pourquoi reverser une petite partie à l'auteur alors qu'en fait, c'est lui qui est quand même le principal fabricant de notre contenu. Donc on s'est dit, bah non, on va mettre le maximum possible. Voilà.
En termes de cinéma, Marc, quand on parle de numérique, on pense très souvent en termes de production, bon, par exemple tourner directement en numérique avec des raids, ou alors en termes de post-prod, parce qu'on pense effets spéciaux. On pense assez rarement en termes de diffusion, à part évidemment le progrès technique du DCP en salle. Mais en fait, il y a 20 ou 25 ans, les amoureux de courts-métrages devaient aller en festival la plupart du temps, ou alors à la limite en cinémathèque, pour avoir accès au fond. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On pense finalement assez peu souvent à la facilité qu'on a pour la diffusion même des courts-métrages, y compris dans de très bons formats et de bonne qualité. En plus, on peut maintenant avoir sa propre chaîne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer, qui serait en fait le pendant également de la
De toute façon, même si je n'avais pas envie de le développer, ça se fait quand même. Moi, j'ai
tous
les trucs que
partie.
J'ai fait, ça se retrouve sur YouTube, sur c'est presque naturel maintenant que les travaux qu'on fait. Il y a un fan, je ne sais pas où il est, qui a flashé sur un petit truc qu'on a pu faire et qui le met sur Internet. Donc le circuit de distribution, effectivement. Numérique par le web est un plus. Hein. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a presque un accès direct. On peut, comme vous le dites, créer une chaîne et émettre ses petits films à lui ou Instagram. Enfin, il y a vraiment des circuits de diffusion comme ça qui est du producteur au consommateur, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est un plus. Comme il y a aussi des outils qui existent maintenant. Des outils numériques où on peut carrément faire un film tout seul sur son ordinateur. C'est vrai qu'il y a un genre de rapport comme ça à la création et à la diffusion qui est vraiment beaucoup plus simple. Et je trouve que c'est vrai que cette facilité de diffuser ce qu'on fait permet justement un aspect qui m'intéresse beaucoup, moi, dans l'aspect court, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester des choses et on n'a pas de contraintes mercantiles, et on n'a pas non plus, on a aussi la possibilité d'apprendre son métier. Je trouve que ce qui, par exemple, manque maintenant, c'est des supports, par exemple au niveau de la presse et tout ça, des supports de journaux qui permettaient à une époque de faire des formats courts, par exemple en bande dessinée. Moi, j'ai commencé dans Métal Hurlant, dans des choses comme ça, où on pouvait apprendre son métier sur le tas, où on pouvait faire des histoires de 3 pages, 4 pages, des choses assez, des formats qui rejoignent celui de la nouvelle. Et qui permettait d'en faire une, deux, et puis comme ça on apprenait, et après on pouvait envisager des histoires beaucoup plus longues, hein, des séries, des choses comme ça. Et je trouve que ce qu'offre maintenant le numérique, c'est ça, on peut permettre, on peut tester, on peut apprendre son métier, et puis après le diffuser, et puis après pourquoi pas faire une série web, enfin après c'est des processus dynamiques quoi. Donc ça, je trouve que c'est un aspect vraiment intéressant du processus.
Oui, c'est vrai qu'en BD, la plupart des...
Et ça fait vraiment partie des choses que nous, on privilégie aussi. C'est-à-dire qu'on peut se permettre des choses par rapport à ça, en termes de publication, où on se dit, tiens, ça, il y a un potentiel, il y a quelque chose d'intéressant, j'ai envie de le travailler un peu avec l'auteur, allez, publions-le. Voyons un peu comment il réagit avec comment ça marche avec les lecteurs. Ce qu'on ne pourrait pas se permettre avec du papier, tu vois, il y a un moment où on se dit bah ouais non ça on va pas le faire. Nous on a la possibilité de le faire, c'est vrai.
Oui, parce que maintenant un auteur, par exemple là on reste toujours dans le truc de la bande dessinée, doit faire un album. Il n'y a plus ce genre de format court. Il doit faire 48 pages, 50 pages, 100 pages, tout ça. Et puis, en principe, on envisage des longues sagas parce que c'est vrai qu'il y a une fidélisation comme ça du lecteur. Mais si votre premier opus ne remplit pas son quota commercial, on arrête. Maintenant, moi, il y a plein de... C'est pareil en série télé. Hein. Je trouve que c'est quand même assez dingue de... qu'il n'y ait plus cette, comment s'appelle, cette volonté éditoriale de poursuivre quelque chose, parce que il y a des grands chefs-d'œuvre qui ont été faits parce que un Goscinny, tout ça, a imposé Fred, par exemple, en bande dessinée. Autrement, tous les lecteurs disaient bah, c'est pas terrible, quoi. Donc je trouve que cette volonté éditoriale, à travers des petits tests qu'on peut faire sur des cours, est vraiment très importante, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu la disparition de la plupart des journaux BD. Par contre, il y a quand même des maisons d'édition en BD qui privilégient quand même les formats courts. Je pense notamment à l'association. Et puis il y a là, il y a Casterman quand même depuis un an et demi qui a Pandora, qui finalement permet d'avoir des développements de récits courts de 8-10 pages. Mais c'est vrai que ce sont des cas finalement.
Ça reste quand même anecdotique, hein, oui. Et pour la littérature, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve que pour les lecteurs, déjà, même trouver de la nouvelle, si on veut sortir d'un champ, par exemple, de genre, par exemple, il faut être un lecteur, qui aime creuser et aller voir son libraire, quoi.
En fait, la question, c'est où trouver de la nouvelle, notamment.
Alors, quand on est auteur de nouvelles, moi, je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir une diversité de supports accessibles qui est extrêmement intéressante. Parce que c'est vrai qu'il y a l'offre numérique, mais si on reste dans l'offre traditionnelle, enfin je veux dire en termes de médias, de supports dans lesquels on peut se proposer nos textes, nous on a les anthologies, il y a beaucoup d'anthologies en ce moment, souvent prises en main par de petits éditeurs, donc pour les lecteurs... C'est dans des endroits comme ici, des lieux de rencontre, dans des salons, dans des festivals qu'on les voit, et pas forcément sur les rayons de la FNAC et encore moins chez Leclerc. Mais il y a des revues. Bon, on n'a plus énormément de revues en science-fiction, c'est pas très faste. Mais on a des revues de vulgarisation scientifique de temps en temps qui publient des nouvelles. Alors, c'est un peu la surprise. Je pense qu'on va... Il y a de temps en temps, dans Télérama maintenant, il y a des nouvelles de science-fiction de temps en temps. Dans la presse, oui, c'est inattendu, mais et exceptionnel. Mais finalement,
pas toujours. Ça reste donc bien exceptionnel, comme tu dis.
Pas toujours avec les étiquettes qui nous sont familières, pas toujours avec l'enrobage auquel on est habitué, nous. Mais finalement, en tant qu'auteur, on n'a pas trop de mal, hein, à trouver des endroits où les proposer. Et alors, une des chances qu'on a aussi, quand on est auteur au sens texte, c'est que, et ça Jean-Claude pourra le dire encore plus, avec plus de force que moi, c'est pas très difficile non plus d'être publié dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Le seul marché qui est très difficile à atteindre pour un Français ou qui demande un investissement de la part de l'auteur ou de l'éditeur français, c'est les États-Unis, le marché anglophone. Mais pour le reste de l'Europe, je suis persuadée que même ici, aux Utopiales, il doit y avoir, je ne les ai pas rencontrés, mais habituellement, il y a quelques éditeurs italiens, hongrois, espagnols, qui sont en quête de nouvelles et de formats courts.
Il y a un facteur aussi dont les gens ne se rendent pas compte et qui est en train probablement de révolutionner notre genre. C'est ce qu'on appelle chez nous la « user story ». Alors la user story, vous ne connaissez pas, c'est une espèce de concept barbare, mais croyez-moi, c'est vraiment fondamental dans les entreprises, dans les trucs maintenant, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire « je vais fabriquer un nouveau produit », on vous vend l'histoire qui va avec. Or, actuellement, je me rends compte que depuis un an à peu près, il y a tout un tas de problématiques, des gens qui font des voitures, des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, des gens qui s'intéressent à tout un tas de choses, dans lesquelles on nous dit, à nous, écrivains de prospective ou d'imaginaire, racontez-moi une histoire qui va avec pour aider à faire passer les concepts. Et ça, comme c'est fait dans un contexte industriel, le cadre d'abord financier et de diffusion est complètement différent. on est quelquefois très bien payé, vraiment très bien payé. Et aussi, ça nous permet d'avoir, je dirais, de faire un travail de mise en image, de mise en narration, de mise en histoire de quelque chose qui est, je dirais, la révolution au coin de la route. Or, comme on fait partie quelquefois, quand on écrit de nouvelles, justement, des gens qui aiment bien parler de la métamorphose, parler du moment où les choses basculent, quand vous avez quelqu'un qui arrive en disant « Tiens, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les choses, personne ne le sait, parlons-en », on se dit « Tiens, il y a un champ d'envie, d'expérimentation avec lequel on peut écrire ». Et ça, c'est vraiment en train d'arriver. Cette notion de user story, je peux vous dire que dans mon second métier, je suis ingénieur à Airbus, depuis 2 ans, elle est au centre de nos préoccupations, littéralement. Je ne fais plus rien dans le cadre de mon boulot sans avoir justifié par une espèce d'histoire ce qui se passe avant.
Voilà. Je peux poser une question dans le public parce que user story, je me demandais si ça avait un rapport avec le storytelling.
Non, user story, c'est l'histoire dans laquelle on met un utilisateur au centre de l'histoire. C'est-à-dire, on ne dit pas l'intelligence artificielle, c'est bien ou c'est mal. On dit, parle-moi d'un utilisateur qui a affaire à l'intelligence artificielle. On ne dit pas, tiens, je vais changer, par exemple, la manière dont je mets le volant derrière la voiture parce que ça pose des problèmes d'ergonomie. On dit, parle-moi d'un conducteur qui est content d'avoir le volant de cette façon-là. Et décris-moi la manière dont il s'installe dans sa voiture. Raconte-moi une histoire. Et à partir du moment où on a raconté une histoire, on a familiarisé les gens qui vont prendre la décision avec le concept. Ce n'est pas leur faire une magnifique présentation PowerPoint 3D d'un volant qui aura été orienté d'une certaine façon. C'est leur dire, machin s'installe dans sa voiture et comme le volant le gênait, il utilisait la commande pour le déplacer vers l'extérieur. Ça, c'est une user story. D'accord ? Et ça, c'est un travail de fictionnisation du réel et c'est quelque chose qu'on nous demande. Et qui va de plus en plus être demandé aux gens qui auront plus la chance d'être à la frontière entre un domaine technique qu'ils connaissent ou un domaine sociologique et la capacité de narration.
Après, c'est quand même il y a de la contrainte dedans.
Tu crois qu'il n'y a pas de contrainte quand on écrit un texte ?
Ah si.
Tu crois qu'il m'est arrivé un jour d'écrire un texte qui n'avait pas de contrainte ? C'était des contraintes personnelles.
C'est super lourd un crayon, tu vois, pour écrire.
Ouais.
Et puis alors, le papier, ça glisse, puis c'est tout blanc, ça reflète, c'est effrayant.
Ça dépend de la qualité des claviers.
Non, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de contrainte. Simplement, il y a aussi une chose, c'est que, soyons clairs, moi, on ne fait pas ça pour l'argent. Je parle au nom de Sylvie, mais je suis certain qu'elle la réponse est la même. On n'a jamais écrit un texte parce qu'on nous payait pour le faire. On a écrit un texte parce que quelque chose dans le sujet du texte nous rendait indispensable le fait de l'écrire. C'est tout. Moi, je n'écris que des choses qui sont indispensables pour moi. Et je pense que c'est ton cas aussi. Et donc, à partir du moment où quelqu'un me dit « Oui, je veux parler, je sais pas, il y a un nouveau concept sur la culture des pommes de terre », je vais lui dire « Désolé, c'est pas pour moi ». S'il me dit « Tiens, l'intelligence artificielle, on en parle », je lui dis « Écoute, ça tombe bien, ça fait 5 ans que j'y réfléchis, j'ai des idées ». Et à ce moment-là, il y a un partenariat qui se crée, d'accord ? Mais simplement, ce partenariat se crée parce que le nouveau marché est apparu. Et à ce moment-là, la contrainte, je ne dirais pas que je la vois pas. Je la considère comme parfaitement admissible par rapport à mon processus normal d'écriture.
Alors, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire Duniac. C'est vrai qu'il y a des gens de phénomènes qui ne sont pas complètement extérieurs, mais ou des phénomènes technologiques qui impliquent un travail nouveau sur la durée au niveau de, par exemple, cinématographique. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est tout ce qui est VR, ou le cinéma en 360 et tout ça. Et c'est vrai que pour l'instant, tout cet appareillage contraint au niveau narratif à des formats courts. Parce que la vision stéréoscopique à l'intérieur des casques virtuels, etc., pour l'instant, sont assez moyens au niveau du confort si la durée excède 10 minutes, quoi. Et donc, ces contraintes externes et même technologiques comme ça impliquent une réflexion sur la création et sur la manière dont on va faire percevoir à son lecteur, à son spectateur, l'histoire qu'on veut lui raconter. Et je trouve que c'est un espace, là aussi, d'expérimentation, de test, d'apprentissage narratif, qui est vraiment passionnant. Et c'est vrai que moi, je développe de plus en plus quelque chose que j'appelle la perception narrative ou la narration perceptive, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui joue justement avec ces phénomènes perceptifs pour, par exemple, attirer le regard ou des problèmes de vitesse ou de lumière ou de choses comme ça. Et qui, ou en plus sonores, qui vont permettre de raconter de nouvelles manières de raconter l'histoire, qui sont vraiment très liées à l'appareillage, quoi. Voilà.
Bah, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, nous, l'appareillage et l'adéquation entre l'appareillage et le format qu'on avait choisi était pour nous une évidence. Mais il y a quand même quelque chose qui, finalement, que je trouve un peu transversal finalement dans tout ce qui est dit, c'est que c'est un format de l'exigence à tout point de vue. Que ce soit un travail d'exigence littéraire où on fait un travail de forme, où l'adéquation entre ce qu'on veut raconter comme histoire, mais je laisserai plutôt Sylvie en parler ou Jean-Claude, et c'est cette forme-là qui nous passionnait, parce que c'est dit, voilà, c'est pas la peine de faire tourner le compteur du nombre de signes ou du nombre de mots pour raconter une bonne histoire. On dit souvent d'ailleurs à nos auteurs, vas-y, coupe la description du vaisseau spatial, on n'en a pas besoin. Par contre, raconte-nous l'histoire. Qu'est-ce qui lui arrive à ton personnage? Voilà. Et cette exigence-là, d'un point de vue formel, et de comment ça te fait rentrer à la fois d'un point de vue littéraire et à la fois d'un point de vue émotionnel pour le lecteur, ça ouvre des perspectives et une richesse. Et on y revient à l'expérimentation, que je trouve mais incroyable. Et l'exemple que tu donnes dans l'industriel est probant. Si on fait appel à quelqu'un pour qu'il te mette dans une situation d'utilisateur et pour que tu comprennes bien de quoi il est question, parce que c'est nouveau, par exemple, le cours, c'est parfait, quoi. C'est vraiment c'est le format idéal.
Tout à fait. Un autre point, généralement, on a tous eu une sorte d'apprentissage soit du cinéma, soit de la littérature, en fait, par la porte d'entrée du cours, du format court. Soit parce que, de toute façon, on n'est pas, quand on est enfant, prêt à se lancer sur des énormes cycles de 600 pages chacun. Mais ça a été je pense que ça a été important pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez développer cette capacité du cours, en fait, à faire rentrer dans un média, dans un art particulier?
Moi, j'ai envie de dire que ça me chagrine à chaque fois d'entendre parler du format court comme un point d'entrée qui permet de former les gens à quelque chose, enfin, sérieux, qu'il soit le format long, comme si c'était forcément mieux et que la nouvelle ou le format court en général n'était destiné qu'à nous permettre d'apprendre le métier. Donc déjà, non. Et en plus, je pense qu'on a quelque chose de très français que moi je regrette. C'est le raisonnement qui était implicite dans ce que tu disais. C'est quand on est petit, on n'est pas capable de lire des trucs longs. Donc on lit du court, on lit des contes, on lit des nouvelles. Et du coup, on associe le format court à l'enfance et à l'immaturité. Et on est dans un espèce de raisonnement qui dit, quand on est grand, qu'on maîtrise bien aussi la lecture, le visionnage, quand on est un spectateur ou un lecteur compétent, eh bien, le format qui correspond est le format long. Et nous qui sommes amateurs de cours autour de cette table, je crois que ça, on a tous envie à un moment donné de dire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et j'étais très très contente d'entendre Dimitri et Marc dire... Ce que nous, on sait bien dans le cours, c'est qu'il faut être extrêmement affûté, effectivement, pour faire du cours. On est tolérant face à un roman. S'il y a des longueurs, s'il y a des passages un peu mous, eh ben on s'en accommode parce qu'on sait que quelques pages plus loin, ça va reprendre. Mais face à une nouvelle, il ne peut pas y avoir de longueur, il ne peut pas y avoir du mou, du terne. Alors, la nouvelle, elle a un avantage par rapport au roman. C'est que si elle n'est pas terrible et que vous décidez quand même de la lire jusqu'au bout, vous n'aurez pas perdu beaucoup de temps dans votre vie.
Oui, je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, une fois, j'avais une discussion avec un auteur et on plaisantait là-dessus. Et je lui dis, mais c'est un auteur qui écrit plutôt des choses un peu conséquentes, un peu longues. Je lui dis, tu ne trouves pas que tu exagères quand même de prendre autant de temps dans la vie des gens? Je ne trouve pas que c'est quand même très, c'est très prétentieux de ta part de vouloir capturer 2 heures, 3 heures d'affilée, plus après un mois, si c'est une série, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est juste te faire rentrer dans une histoire en, en quelques instants dans ta vie. Bon, c'est un sujet de plaisanterie, mais ça prouve à quel point quand même ce degré d'exigence du cours, voilà, c'est pas de l'infantilisme.
C'est une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'embêter les gens si longtemps? Je voudrais dire une chose à Olivier aussi quand même. La seule chose qu'on apprend à écrire en écrivant des textes courts, c'est à écrire des textes courts. On n'apprend absolument pas à écrire des romans en écrivant des textes courts. C'est une autre démarche. Bon, il y a la phrase, si tu veux, mais on est censé avoir une grammaire à peu près correcte. Non, ce qu'on apprend en écrivant des textes courts, c'est à faire de meilleurs textes courts. Enfin, tout au moins, il faut espérer. Mais c'est tout.
Mais il y a encore plus court que court, hein, parce qu'il y a quand même aussi tout un espace où, moi, je trouve que c'est encore... Là, c'est presque la sublimation absolue du minimalisme. C'est les aphorismes, c'est les haïkus, tout ça, ou avec quatre phrases, ou les limericks d'Edward Lear, des choses comme ça, ou avec quatre phrases, vous arrivez à créer tout un univers. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure de ces dessins d'humour, ou avec juste un dessin, il y a des peintres aussi.
Les nouvelles
comme
en
ça.
Six mots.
Voilà.
Il y a un texte
d'Hemingway.
Frédéric Brown.
Hemingway a fait un texte magnifique qui disait « Vent, chaussures de bébé, point, jamais servi. »
Qui n'est pas d'Hemingway d'ailleurs.
Non.
C'est pas Hemingway. Non, mais ceci dit, non, c'est pas Hemingway. C'est la légende, hein, mais c'est pas Hemingway. Ouais. Évidemment, j'avais étudié la question, je voulais savoir d'où venait ce texte. Non, c'est pas Hemingway. Mais ceci dit, c'est très bien si c'est Hemingway en fait. Hein. C'est très bien si ça reste Hemingway en fait. Je sais même plus qui, mais bon.
De toute façon, le format court. Maintenant, en audiovisuel, a tendance à même être raccourci sur certains domaines. Par exemple, bon, je pense que la série télé n'a jamais été finalement aussi populaire, clairement, bon, pour plein de raisons. Augmentation de la qualité, thème abordé, etc.
De vrais scénarios.
Et de vrais scénarios. Et souvent des moyens de production très importants. Enfin, y a des budgets qui sont vraiment bien. Et ce n'est plus... Il n'y a plus cette image de sous-cinéma qui avait un peu trop gangréné la série télé pendant très très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se retrouve avec devoir faire également court, resserré sur de la série. Et en plus, il y a aujourd'hui les séries web qui peuvent avoir des durées extrêmement courtes et qui sont destinées à être vues sur tablette, téléphone, etc., et qui vont faire quelques minutes seulement par épisode.
Mais ça a tout le temps été le cas. Hein. Il y a toujours eu un phénomène de durée qui était lié au support. En cinéma, la durée des films viennent du support et du format de la pellicule, des bobines de pellicule. À la télévision, c'était pareil. Hein. Il y avait des formats, c'était 26 minutes, 13 minutes. Il y a toujours eu des formats, des standards comme ça, qui ont imposé un peu des durées à la narration, avec les coupures de pub, avec plein de choses comme ça. Donc là, il y a une diversité maintenant du support qui fait que, comme on va y accéder dans plein de moments où il y a un peu cette notion de zapping narratif qui commence à... qui s'est vraiment énormément répandu, il y a ces genres contraintes de durée qui se répandent un peu partout, avec des formats courts, parce qu'on est dans le métro, on est voilà, pour pouvoir accéder en flux continu, hein, comme on dit, à ces choses-là. Quoi.
Je suis obligé de rebondir, parce que si on reprend finalement ce que j'ai dit au tout début sur les origines des bouconautes, c'est le média qui a imposé de lui-même le format. On savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir proposer du 1 million de signes sur un smartphone. Ça nous semblait presque évident. Après, je ne sais pas, peut-être qu'à terme, les gens auront à nouveau envie de lire des formats plus longs sur des supports électroniques. Mais on voit bien que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la tendance. Donc, on s'est dit, non, on va rester sur quelque chose de court. Et puis aussi parce que nous, on aime bien ça. On va quand même le dire aussi.
Tu emploies un terme d'ailleurs, Olivier, qui est quelquefois qu'il ne faut pas confondre. Tu emploies le terme de resserré. Pour moi, un texte resserré, un roman, c'est parfaitement resserrable. Si tu veux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est écrit dans une certaine longueur, dont on se dit, est-ce que je ne peux pas, à la pince à bigorneau ou à la hache, enlever des choses. Ça, c'est le resserrement d'un texte. Par contre, un texte court, c'est un texte qui est pensé court dès le début. C'est une histoire dont on sait qu'elle va être limitée dans l'espace et dans le temps, et qui a pour vocation d'être courte. C'est un petit diamant qu'on va essayer de faire briller, à l'efférence d'un gros diamant qui peut être aussi taillé avec tout un tas de facettes ou utilisé comme presse-papier. Vous voyez, un petit diamant, on n'a pas le choix, il faut tailler très finement pour que ça brille. Et ça, c'est une, ça tient à la nature même de l'histoire ou de ce qu'on va raconter. C'est court par essence.
Oui, et je pourrais rebondir là-dessus parce que ça nous arrive, nous, en tant qu'éditeurs, de se retrouver dans une problématique compliquée où d'un seul coup, l'auteur nous livre un texte qui est pensé court, clairement. Alors nous, en plus, comme on a des contraintes, on s'est donné en plus des limitations de temps de lecture et donc de nombre de signes qu'on demande aux auteurs extrêmement resserrés. Ce qui fait que ça nous est arrivé d'avoir un très beau texte court qui était au-delà de notre temps de lecture attendu pour nous, pour les bouconautes. Et clairement, quand j'ai demandé à l'auteur « mais tu ne peux pas raccourcir », il me dit « ben non ». Mais tu le vois toi-même. Et effectivement, en tant que lecteur, éditeur, je voyais très très bien que, effectivement, il était au-delà du nombre de signes attendus. Mais il était très bien comme ça parce que je savais bien et j'ai bien vu qu'il avait été pensé comme ça.
Je voulais compléter en disant que moi, les situations les plus difficiles que j'ai vécues en écrivant des nouvelles dans des cadres avec des contraintes fortes, où on nous donnait une fourchette à respecter avec une longueur minimale, une longueur maximale.
C'est ce qu'on fait.
Oui,
c'est ce qu'on fait.
D'accord, mais quelquefois, elle est très étroite. Bon, on est quand même des auteurs un peu expérimentés. On sait en gros vers quoi on s'engage quand on écrit une nouvelle. Et enfin, moi, je sais en gros si elle va faire 10 000 ou 40 000 signes ou 120 000. On le sent d'après ce qu'on veut y mettre. Mais il m'est arrivé au moins une fois qu'on me dise « Ah non, là, il faudrait que tu mettes... 300 signes de plus, c'est rien, c'est 4 lignes. Mais j'ai galéré pour trouver où je pouvais rajouter 4 lignes de texte. C'était aussi difficile. J'aurais été tout aussi malheureuse les rares fois où on m'a demandé d'enlever 4 lignes de texte. Mais normalement, quand un texte fonctionne, on ne peut pas y rajouter non seulement une phrase ou l'enlever, mais même un mot. Et je pense que tu vas confirmer ce que je dis là.
J'ai eu le cas il y a un an et quelques, on a écrit un texte en commun avec Mike Resnick qui a été publié dans l'anthologie qui était, automate et fait automate, je crois, pour Épinal. Et je n'avais parlé que d'automate, enfin, nous n'avions parlé que d'automate et l'anthologiste, Jean-Claude Antroyen, m'a dit « je suis un peu embêté parce que le contrat c'est quand même d'avoir fait automate ». Donc j'ai rajouté 3 lignes où il y avait un jeu d'échecs avec des faits. Bon, ça faisait 3 lignes, j'ai mis ce truc-là. Et il m'a dit, bon, OK, ça passe, j'admets le truc. J'ai rajouté véritablement mes 4 lignes. Et je l'ai renvoyé à Mike Resnick qui m'a dit, ouais, bon, OK, on l'accepte, mais quand on le publiera en anglais, on l'enlève parce que ça ne sert à rien. Et c'est exact, ça ne sert rigoureusement à rien. Donc, à ce moment-là, il faut être totalement impitoyable. C'est un peu comme les gourmands quand on fait des tomates, quoi, il faut les enlever. Parce que ça ne va pas faire de tomates. Et une nouvelle, moi, j'arrive à voir les mots, à un moment donné, qui ne servent à rien. Même dans mes propres textes, quelquefois, c'est efférent. Je relis mes textes avant de les republier en recueil, j'ai la Talente, et je me dis, mais pourquoi t'as mis ce mot? Pourquoi t'as mis cet adjectif? Pourquoi tu t'es laissé aller à te vautrer à mettre un adjectif qui ne sert à rien? Alors, je le barre. Et c'est une espèce de satisfaction, me disant, bon, là c'est plus propre.
Ça fait partie du plaisir, d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve que entre l'auteur et l'éditeur, quand on travaille de la nouvelle... l'idée de ciseler un peu le texte, ça fait partie, nous, de nos petits plaisirs, quoi. On dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit
j'ai une éditrice que je salue parce que je dois avouer que l'une des raisons pour laquelle je reste à la Talente, outre le fait que c'est une super maison, c'est aussi parce que j'ai des discussions éditoriales avec Mireille Rivalan qui valent le détour. Elle m'a passé 2h30 chronométrées à parler de virgules. Pourquoi j'en mettais là, il fallait pas. Pourquoi je n'en mettais pas là, il fallait. Et ça, quand on arrive à ce niveau-là de précision, de finesse, qu'elle me dit, mais tu entends le rythme? Et je lui dis, non, moi, je l'entends comme ça. Oui, mais non, tu as fait du 5-4 tout le long de ça. Je me dis, putain, on a affaire à quelqu'un qui comprend. Et c'est la seule personne que je connaisse qui me republie une nouvelle qui a eu 14 prix, machin, etc., et qui me dit, tu sais, je crois qu'on peut l'améliorer. Et ça, c'est vachement agréable.
On travaille énormément sur la musique. Il y a un travail invisible. Mais la musique du texte et la ponctuation, oui, ça compte. Mais les adverbes, les adjectifs, et surtout... le choix de l'association des mots, il y a tout un tas de choses minuscules. Si on joue dessus, le texte n'a pas la même couleur, n'a pas la même ambiance. Et c'est un travail d'une précision qui est destinée à être invisible à l'arrivée. Personne ne s'en rend compte, mais nous, on sait si ça sonne juste ou pas. Et oui, c'est un énorme plaisir de faire ce travail-là.
Et il y a une chose aussi, c'est qu'entre écrivains de nouvelles, on se reconnaît. C'est-à-dire que la personne qui a la bonne musique, qui a la bonne façon, qui fait briller les choses, on sait quel est le boulot que cette personne a fait. Et on peut de temps en temps aller voir en levant le chapeau, en disant là, tu as fait quelque chose qui me bluffe totalement et je voudrais comprendre. On passe notre temps à discuter de comment tu as, pas tellement comment tu as fait, mais comment tu as ressenti, comment tu as mis ça en place, comment tu l'as créé, et c'est un sentiment extraordinaire. Puis on relit les maîtres. L'avantage aussi en nouvelles, c'est qu'il y a une quantité de maîtres qui ont écrit des recueils de nouvelles extraordinaires. On a chacun les nôtres, on en a quelquefois des en commun, mais je vous garantis qu'il y a des recueils de nouvelles qui, quelque part, nous changent nos vies d'écrivains, quoi. Nous disent, puisqu'on peut faire ça, on ne peut pas se contenter de faire ce que nous on fait, il faut faire aussi ce que lui est capable de faire, ce que lui ou elle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent des nouvelles extraordinaires.
Rebondir sur ce que tu viens de dire, quand on fait des films et des courts-métrages, c'est pareil, on a aussi nos maîtres, il y a des spécialistes, il y a des gens d'auteurs, il y a Zbigniew Rybinski par exemple, ou des gens, de personnes comme ça. Chaque petit film, c'est des petits diamants, comme tu disais, qui ont vraiment, dans le cours, une existence absolument de chef-d'œuvre, quoi. Et pour revenir à ce que vous disiez, en musique aussi, on dit souvent « less is more », parce que, voilà, c'est vrai que c'est mieux.
Pour moi, un grand auteur de nouvelles, c'est quelqu'un qui remplit les silences entre ses phrases. Tout le travail de non-dit, tout le travail de résonance entre les choses, où vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui se passent entre deux phrases. Et ça, je ne sais pas comment ils font, hein, mais quand je le vois faire, il y a quelqu'un qui s'appelle Fitzgerald qui fait ça de manière époustouflante, de temps en temps, on se dit, mais comment il fait ? Ça en est même arrivé à un stade, c'est rigolo, hein, mais où Fitzgerald a écrit une nouvelle dans laquelle les personnages s'embrassaient chastement à la fin de telle phrase, puis sautaient à la ligne, et le lendemain matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Eh bien, il y a des gens qui ont écrit au journal pour dire que ce qu'ils faisaient entre les deux était un scandale. Et qu'on n'aurait pas dû publier ça. Et le journal avait répondu, je crois que c'était le New Yorker, avait répondu, ce que font les personnages en dehors du texte ne nous regarde pas. Enfin, un truc comme ça. Mais il y avait vraiment des gens qui avaient écrit. Pourquoi ? Parce que ça y était tellement. D'accord ?
Voilà, je crois que vous comprenez tous pourquoi on aime tant la nouvelle, en fait. À lire et à composer.
Avez-vous quelques questions ?
C'est pas une question, c'était une observation. C'est qu'on se rend compte, quand on a toujours écrit des nouvelles et qu'on commence à écrire un roman, qu'on est vraiment dans une dimension totalement différente et que, quelque part, le silence entre les phrases, dans le roman, on ne peut pas le mettre.
Bonjour. Moi, j'avais une question sur... On voit qu'il y a de plus en plus de nouvelles qui sont adaptées ou qui inspirent des films au cinéma. Par exemple, récemment, il y a eu Ted Chiang avec une de ses nouvelles de la Tour de Babylone qui a donné le premier contact. On a eu Chambers avec Le Roi Jaune qui a donné lieu à la série True Detective, par exemple. Est-ce que vous pensez que les formats courts, donc littéraires, les nouvelles, sont compatibles avec des adaptations cinématographiques ?
Ça fait très très longtemps. Vous avez comment s'appelait un film qui s'appelait Le Rendez-vous avec la peur, qui était inspiré d'une nouvelle Talking with the Run.
Fitzgerald, Jack Tourneur.
Ça fait très longtemps qu'il y a des nouvelles, des nouvelles d'Edgar Poe. Tout ça, c'est des nouvelles. Ouais. Hein, qui ont été
dans les années 1920, 1930 jusqu'à 1950, beaucoup beaucoup de films, Le Fantôme et Madame Muir, etc., étaient créés à partir de nouvelles de 40 pages. Fitzgerald en a vendu une quantité absolument phénoménale. La différence, c'est qu'à cette époque-là, on prenait la nouvelle, on avait une espèce de narration courte, mais on avait des personnages riches, et donc on pouvait faire une heure et demie de film maintenant. Tandis que, bon, on a fait des choses complètement différentes. Mais vous savez, il y a des tas de films aussi dont je me dis, des films actuels, dont je me dis que s'ils avaient au moins utilisé une nouvelle comme scénario, il y aurait eu un scénario. Vous voyez ? Donc il y avait quand même un avantage. Donc je suis très très content qu'on reprenne les nouvelles, mais ce n'est pas du tout une nouveauté. Hein. Pas du tout.
Est-ce qu'on pourrait prendre un micro ?
Non, je disais ça, mais bien sûr, je sais que c'est pas récent, qu'il y en a toujours eu, etc. Il y a eu Total Recall aussi, par exemple, enfin, il y en a eu plein, plein, plein. Mais c'était vraiment le côté où on peut croire justement une nouvelle, c'est assez court, etc. Est-ce que ça laisse plus la part justement au réalisateur de, d'ajouter sa patte, entre guillemets? Parce que vu que c'est des formats courts où justement vous allez droit au but, entre guillemets, est-ce que ça laisse plus la part de développement autour?
Je peux vous répondre pour un projet personnel que j'ai là, et qui est, je me suis inspiré d'une nouvelle inédite, enfin pas inédite, mais inachevée de Kafka, qui s'appelle Le Terrier, où ça s'arrête vraiment en cours de route. Et je me suis accaparé cette nouvelle-là pour pouvoir après... Alors, cette nouvelle représente le premier acte, en gros, de mon histoire. Et après, j'ai pu m'approprier l'univers de Kafka et développer, mais d'une manière personnelle. Donc, c'est vrai que, voilà, après... Tout ce qui peut inspirer, ça peut être des nouvelles, des longs métrages. Enfin,
mais même pour aller plus loin, moi j'ai eu une discussion il n'y a pas très très longtemps avec un scénariste. Il y a une connivence, si tu veux, entre le scénariste dont l'objectif est quand même de raconter une histoire et finalement la forme l'intéresse mieux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'histoire. Et l'écrivain de nouvelles. Il y a une espèce de connivence que moi j'aime bien parce que l'objectif du scénariste, lui, c'est vraiment d'arriver à l'essence même d'une histoire, et il a très peu de temps pour le faire. Donc moi j'ai presque envie un jour de faire un appel aux scénaristes et de leur dire, les gars, si votre histoire ne voit pas le jour sur un écran, peut-être que en la retravaillant un peu, peut-être que ça peut faire une très jolie nouvelle.
On a deux créatifs dans l'affaire. Si on a d'abord un auteur qui écrit un texte, puis quelqu'un qui travaille pour en faire un objet plus cinématographique, on a deux créateurs. Si on part d'un roman, le créatif qui met en image, il doit faire des choix, il doit faire des coupes. Il est dans la frustration permanente. Je n'ose pas imaginer... le désespoir que ça doit être quand on aime un bouquin comme Dune, d'essayer de l'adapter pour le cinéma, ça doit être terrible. Il faut sans arrêt décider, je laisse tomber ça, on ne verra pas tel personnage, on n'entendra jamais parler de ce truc qui était génial. Alors que si on part d'un texte, d'une nouvelle de Dick, et qu'on en fait un film, si c'est Total Recall par exemple, eh bien le créatif il peut s'exprimer, il a plein de choses à développer dans un univers qu'il adore. Donc voilà, c'est une question de plaisir, hein, la création.
Puis il y a énormément de séries télé en ce moment qui sont des séries télé où chaque épisode est indépendant et qui sont tirées de nouvelles. Il y a le Philip K. Dick Electric Dream. Il y a quand même un des précurseurs qui est extraordinaire, qui est Black Mirror, qui est quand même, je dirais, là, sur le plan scénaristique, qui est vraiment quelque chose qui me laisse assez pantois. Hein. Là, on a de véritables nouvelles.
Il y avait ça dans Twilight Zone.
Il y avait ça dans Twilight Zone aussi, il y en a eu tout un tas. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, tiens, certaines approches du format court, où il n'y a pas l'arc narratif d'une série, où il y a un arc narratif dans l'épisode, il y a un arc narratif dans la saison, il y a un arc narratif dans la série complète. À ce moment-là, on se dit, tiens, là, on a quelque chose de précis, de concentré, sur lequel on peut jouer. Et effectivement, comme le dit Sylvie, il y a une double création. Et heureusement, on voit ça. Encore une fois, le format court est de plus en plus aussi adapté à notre mode de vie, à notre mode de pensée, où on n'a tout simplement plus le temps de lire pendant 2 heures. Et lire pendant 2 heures, ça veut dire que, à un moment donné, on perd un peu les grandes sagas, les textes longs. Moi, je le vois avec mes amis qui lisent 1 à 2 bouquins sur la plage par an, ce qui est quand même la grande majorité des Français, qui vous disent, la plupart des livres, je suis largué parce que comme je lis 2 pages à la fois, je me rappelle plus au bout de 15 jours ce qui se passait 2 chapitres avant. Alors essayez d'imaginer Agatha Christie dans lequel l'indice pour permettre de savoir que c'est le major qui a tué, c'est la paire de skis qui est à la page 14, alors qu'on le découvre à la page 183. Je veux dire, le type, s'il met 2 ans à le lire, à mon avis, le major, il ne sait même plus qui c'est, quoi, à la fin. Et pour en avoir parlé avec différents auteurs, et dont avec Bernard Werber me dit, je m'arrange toujours pour que dans un créneau de 10 à 15 pages, tout ce que le lecteur a besoin de savoir soit présent. Et donc, il y a cette espèce de fenêtre de lecture qui traîne. Et le texte court est bien de ce côté-là. Le texte court permet d'être avalé en une fois. Voilà. C'est la différence entre un bonbon au chocolat et un gâteau au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonbon au chocolat, vous l'avalez en une bouchée. Le gâteau au chocolat, surtout si en plus, il y a des endroits dont vous dites, tiens, je mangerai bien un petit bout de ce truc parce qu'on a mis des zestes d'orange par-dessus, ben, vous allez être obligé d'avoir de l'appétit puis d'y passer du temps. Alors qu'un bonbon, c'est...
Surtout les Ferrero Rocher d'or.
On va terminer sur la note chocolatée. Merci d'être venu et merci à nos invités.
Merci.